Ne le laissez pas entrer. De Lisa Jewell, traduit de l'anglais par Adèle Roland-Ledem, lu par Claire Thévenin
et Nicolas Matisse.
Ash soulève la carte posée sur le buffet de la cuisine et l'ouvre. À Nina, à toute la famille. Je viens d'apprendre la mort de Paddy. J'en suis profondément bouleversée. J'ai bossé avec lui dans un restaurant à Mayfair il y a fort longtemps. C'était l'un des types les plus sympathiques que j'ai jamais rencontrés et l'un des meilleurs chefs avec qui j'ai travaillé. Il y a quelques années, je suis entrée par hasard dans son restaurant à Whitstable et je n'ai compris que c'était le sien qu'en le voyant passer en salle. Je l'ai arrêté et nous avons discuté. Il avait l'air en pleine forme, débordant de sa bonhomie habituelle, de sa générosité d'esprit. Il s'est assis et m'a accompagnée pour terminer le repas tout en me faisant boire de bon vin. Nous avons échangé sur nos vies. La sienne avec sa famille et son empire de restaurant sur la côte sud, la mienne celle d'un éternel célibataire propriétaire d'un bar à vin dans le quartier où nous étions rencontrés, à Mayfair. J'ai toujours pensé que l'un de ces jours nos chemins se croiseraient à nouveau, que je retournerais à Whitstable pour passer une heure ou deux en son exquise compagnie, pour partager un repas délicieux. Mais je n'en ai jamais eu l'occasion. La vie m'en a empêché et désormais il est trop tard. En tout cas, je tenais à ce que vous sachiez à quel point je l'adorais et à quel point je suis désolée d'apprendre qu'il nous a quittés si tôt dans des circonstances aussi tragiques. Avec toutes mes pensées et ma sympathie, Nick Radcliffe. Ash agite la carte en direction de sa mère qui se tient devant la bouilloire attendant que l'eau chauffe. C'est sympa cette carte. Nina se retourne vers elle, ses yeux sont mornes, cernés. Oh oui, très gentil. Tu l'as déjà rencontré ? Non, je ne crois pas. En tout cas, je ne me souviens pas de lui. Ash sort son portable de sa poche et le cherche sur Google, en ajoutant Mayfair après son nom. Un profil LinkedIn apparaît, sur lequel elle clique. Nick Radcliffe se présente comme le cofondateur et propriétaire du Bar Amélie à Londres. Sur sa photo de profil, il a la cinquantaine, des cheveux argentés éclatants, une barbe blanche soignée, des yeux bleus perçants et un sourire agréable. Elle tourne son écran vers sa mère. « Regarde !» Nina jette un coup d'œil distrait. « Non, je ne l'ai jamais vu. Il est pas mal, par contre. » Ash la dévisage horrifiée. « Quoi, j'ai le droit de dire ça ?» Ash tape « Bar Amélie » sur Internet et tombe sur un site clinquant. L'établissement est situé dans une rue perpendiculaire à Curzon Street. La décoration est belle, épurée, avec du cuivre brossé, du velours pâle et pas moins de trois types de caviar différents à la carte. C'est l'antithèse des restaurants de son père, qui sont rustiques avec des parquets couleur sable, des tableaux à craie, du lambris, des soupes de coquillages et des homards grillés au feu de bois. « On devrait y aller ?» suggère Ash en montrant le site à sa mère. « Pour qu'il nous raconte la vie de papa à cette époque avant votre rencontre. »« Ton père connaissait des centaines de personnes, tu sais. »« Oui, mais lui a l'air vraiment gentil. Il a peut-être des anecdotes. » Alors vas-y, toi. Je suis sûre qu'il sera ravi de rencontrer la fille de Paddy et de lui raconter ses souvenirs. Et il te proposera peut-être même un dîner gratuit. Ou un job. Cette dernière remarque est sèche, piquante, et s'ensuit un bref silence tendu. Peut-être, répond-elle en reposant la carte sur le buffet d'un geste brusque et dédaigneux. On verra bien. Ash travaille dans la friperie en dépôt-vente du village. Les gens consignent de vieux vêtements qu'elle et sa patronne, Marceline, nettoient à la vapeur dans l'arrière-boutique pour en retirer l'odeur avant de les accrocher sur des portes en chic entre des bouquets de fleurs en soie et de beaux meubles en bois. Si le vêtement se vend, le propriétaire récupère la moitié de la somme et la boutique garde le reste. C'était censé être temporaire, cet emploi. Une courte étape estivale après être rentrée à la maison quand la vie à Londres s'était révélée trop compliquée pour elle. Puis septembre était arrivé, octobre. La mort de son père. Et à présent, nous voilà en janvier, presque en février, et elle travaille toujours à la friperie, elle dort toujours dans sa chambre d'enfant, alors qu'elle aura bientôt 26 ans et qu'elle ne devrait plus être là. Bien qu'elle le sache pertinemment, elle ne veut pas déménager. Pas maintenant. Elle veut continuer à vivre dans la belle maison de son enfance qui sent encore le parfum de son père. Elle a régressé. Elle vacille. Elle tombe.
Chapitre 4. 4 ans plus tôt. J'embrasse ma femme. Son haleine sent le dentifrice de la veille et une bonne nuit de sommeil. Mais je l'embrasse tous les matins. C'est une habitude. Cela fait partie de la panoplie, de l'illusion, des gestes qui rythment les 4 dernières années de notre vie de couple. Si je dérogeais à la règle, elle trouverait ça étrange, ce que je tiens à éviter. Si elle commence à douter des petites choses, elle va finir par tout remettre en question. Alors je soigne méticuleusement les détails pour m'assurer que tout se déroule toujours de la même façon, jusqu'à ce que tout change.
« Bonjour, »
murmure-t-elle en se blottissant contre moi et en posant une main sur mon torse, le visage levé dans mon épaule et mon menton.
« Bonjour, mon amour, »
réponds-je en déposant un baiser sur sa tête. Ses cheveux sentent notre lessive, mais aussi le cuir chevelu, ce que je n'adore pas, mais ça fait partie du contrat. Je me blottis contre elle, et nous restons dans cette position un moment, comme chaque matin. Puis je me détache doucement, bâille en m'étirant et sors du lit, attrape mon peignoir sur le fauteuil à côté de la fenêtre et l'enfile. Le ciel est d'un bleu profond, plus proche d'un mois de juillet que de février. J'en frissonne d'espoir. Mon heure dans cet espace lénifiant, frustrant, touche à sa fin. Le temps coule comme un foulard de soie entre mes doigts. Je me retourne et lui souris.
Je t'aime. Moi aussi.
Oh, au fait, je vais discuter avec Georges aujourd'hui. Georges, mon conseiller financier imaginaire. Il voudrait qu'on investisse un peu plus dans notre fonds de pension. 1000 ou 2000 livres, c'est tout. Il a trouvé une petite marge d'amélioration. Un fonds de pension tout aussi fictif, pour ce futur que nous ne passerons jamais ensemble.
Ah, c'est bien. Mais je n'ai pas trop les moyens en ce moment, pas après avoir payé pour ton opération du genou.
Je serre la mâchoire.
Mais je crois qu'on devrait vraiment le faire, mon ange.
Ce dernier mot m'arrache presque une grimace. Pense à notre avenir. Tu ne veux pas faire ça toute ta vie. Tu travailles énormément. On bosse tous les deux tellement. Il nous faut un bon matelas de sécurité, et le plus tôt possible. Chaque centime que l'on met de côté aujourd'hui, c'est un pas de plus pour atteindre nos rêves. Elle soupire, mais je sais que c'est un assentiment, et je me détends. Le futur que j'ai créé pour nous est si exquis que j'aimerais presque qu'il soit vrai. Nous allons vendre cette maison, cette pauvre baraque qu'elle a achetée quand elle a quitté son crétin de mari. Rien ne me fait plus plaisir que de dire à quel point son ex est un con. Pour acquérir une propriété dans l'Algarve, où elle aura le temps de peindre, et moi de flâner, où ses enfants viendront passer leurs vacances. Et tout cela, le labeur et la routine quotidien, ce sera terminé, et nous serons heureux pour toujours.
Je vais voir ce que je peux faire.
Merci, mon ange. Et cette fois, le mot ne me coûte pas, car je le pense. Elle est mon ange, ma femme chérie qui serait prête à tout pour moi. Absolument tout.